Au nom de Jésus, en ce soir particulier, Seigneur, nous voulons vraiment nous placer devant toi. Oui, avec respect et avec honneur, Seigneur. Et nous voulons entendre de ta parole parce que ce soir, tu as quelque chose à nous dire individuellement. Merci, Saint-Esprit, pour ton ministère. Merci parce que non seulement nous entendons, mais nous recevons dans la bonne terre. Et ce que nous entendons ce soir, Seigneur, nous décidons que ça va profondément en nous et que ça porte du fruit au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, j'ai un message à partager avec vous ce soir. Et vous voulez regarder avec moi dans l'évangile de Matthieu, si vous avez amené vos Bibles, sinon les versets vont s'afficher là-haut. Non, ils ne s'afficheront pas ce soir d'ailleurs. Donc regardez sur la Bible de votre voisin. Matthieu chapitre 2, c'est un passage qu'on a l'habitude de lire les soirs de Noël. Il est dit donc que Jésus naquit à Bethléem, au verset 1, en Judée à l'époque du roi Hérode. Or, des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Alors rassurez-vous, on ne va pas... Je ne vais pas juste vous raconter l'histoire des rois mages ce soir, mais il y a un message. Hein. Des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? En effet, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. » C'est-à-dire qu'il s'est passé quelque chose dans les astres qui a été vu par ces astronomes ou ces astrophysiciens de l'époque, on pourrait dire. Et une étoile s'est mise à briller. Mais elle s'est mise à briller lorsque Jésus est né, qui a fait que ces gens-là sont venus jusqu'à lui. Regardez au verset 9, donc, après avoir entendu le roi, ils partirent, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux jusqu'au moment où, arrivée au-dessus de l'endroit où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent remplis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ensuite, ils ouvrirent leur trésor et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Alors, désolé de casser quelques mythes, mais manifestement, les rois mages ne sont pas arrivés au moment où Jésus était dans la crèche. Ils sont arrivés bien plus tard, Jésus avait à peu près 2 ans, et ils sont arrivés lorsque Jésus était déjà de retour chez lui. Et comment je le sais ? Parce qu'ensuite, il nous a dit que Hérode, se voyant trompé par les rois, a décidé de faire tuer tous les enfants de 2 ans et moins. Ce qui veut dire que la crèche, ça s'était passé 2 ans avant. Mais mon point ici, c'est de dire que la naissance de Jésus a été un événement suffisamment prévu d'avance pour que, vous savez, une étoile ne naît pas en un jour et elle ne se voit pas immédiatement. Vous savez que le temps que ça traverse l'espace, la lumière de l'étoile, le temps qu'elle arrive sur la Terre, il y a peut-être des mois ou des années qui se sont écoulées depuis que l'étoile a envoyé son signal. Ce qui veut dire que quand les rois mages l'ont vue, cette étoile existait déjà depuis des mois ou des années. Et ils ont vu la lumière à l'instant précis que Dieu avait prévu et qui correspondait à la naissance de Jésus. Parce que je suppose que le temps de venir à caravane de chameaux bien chargée, ils n'ont pas mis 24 heures pour venir de l'Orient jusqu'à Jérusalem. Et il nous est dit ensuite que quand ils sont arrivés, ils ont apporté des trésors. Ça a fait suffisamment de bruit et la caravane, ils n'étaient pas 3. Hein. Parce qu'il nous est dit que la ville entière était, dans un autre évangile, la ville entière était en émoi lorsqu'elle a vu arriver cette caravane. Ce qui veut dire que le convoi était suffisamment impressionnant pour qu'une ville comme Jérusalem, qui pourtant est une ville habituée aux fêtes juives, habituée à ce qu'il y ait du monde qui vienne et qui brasse et qui amène beaucoup de richesses également au temple, ils n'avaient jamais vu ça. Donc il y avait peut-être des dizaines ou des centaines de chameaux et de chargés de richesses qui arrivaient à Jérusalem ce soir-là. Enfin, à Jérusalem et ensuite donc jusqu'à Nazareth où habitait l'enfant. Et il nous est dit que les trésors qu'ils ont amenés, ils les ont donc offerts à Jésus. Ce qui est assez intéressant, c'est que certains ont dit, mais comment Jésus a-t-il financé 30 ans de ministère, ou 3 ans de ministère, mais enfin, il les a notamment financés grâce à cela. On sait également que lorsque ensuite Joseph a été averti que Hérode voulait tuer les enfants, le Seigneur l'a amené en Égypte. Ce qui veut dire qu'il a dû laisser derrière lui quoi ? Sa maison, son entreprise, son compte en banque, son épargne, tout derrière lui. Et l'argent qui a été apporté, les trésors qui ont été apportés par les rois, a permis à cette famille de vivre et ensuite au ministère de Jésus de se lancer. Parce que c'est bien gentil de dire à Jean, à Pierre, etc., « Suivez-moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes », mais il faut les nourrir, ces gens-là. Et puis quand ils viennent avec leur famille, il faut les nourrir également. Mon point ici, c'est de dire que cette étoile, Dieu l'avait prévue bien avant et elle s'est manifestée juste au moment propice. Et ces trésors, Dieu les a envoyés bien avant et ils se sont manifestés juste au moment propice. C'est-à-dire que dans la naissance de Jésus, vous savez, on célèbre ce soir la naissance de Jésus. Et comme le pasteur l'a dit la semaine dernière, ce qui est assez marrant, c'est que nulle part dans les Écritures, il ne nous est dit de célébrer la naissance de Jésus. Mais on le fait parce que c'est un instant qui est important, parce qu'on veut se souvenir du don que Dieu a fait aux hommes. Regardez avec moi maintenant à la fin de l'évangile de Matthieu, au chapitre 27. Après la crucifixion. Au verset 57, il est dit « Le soir venu, arriva un homme riche d'Arimathée, du nom de Joseph, qui lui aussi était un disciple de Jésus. Il alla trouver Pilate et demanda le corps de Jésus. Alors Pilate ordonna de le lui remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa dans un drap de lin pur, et le déposa dans un tombeau neuf qu'il s'était fait creuser dans la roche. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla. » Quelque chose d'intéressant au sujet de ce passage, c'est qu'on voit que Joseph d'Arimathée est arrivé le soir de la crucifixion. L'avait-il prévu ? Non. Puisque Jésus, personne ne pouvait savoir qu'il avait été arrêté. D'abord, il a été arrêté en secret, et en plus, il n'avait été arrêté que la veille. Donc, je ne pense pas que Joseph d'Arimathée avait prévu de venir pour la crucifixion de Jésus. Peut-être avait-il prévu de venir pour la fête qui était célébrée à Jérusalem à ce moment-là. Mais il était disciple de Jésus et il est arrivé à l'instant propice. Et puis ça ne s'arrête pas là. C'est que Joseph d'Arimathée avait décidé de se faire creuser un tombeau. Et que non seulement il est arrivé au bon moment, mais il a pu apporter au Seigneur une provision. Il n'avait pas prévu que ce tombeau serve à l'ensevelissement du Seigneur, mais c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que Dieu, le Père, avait prévu toutes ces choses. Et il s'est arrangé pour que la provision soit fournie au bon moment. Mais ce qui est intéressant avec la provision, c'est de voir que Dieu ne nous l'envoie pas au moment où nous en avons besoin. Dieu l'envoie avant que nous en ayons besoin. L'étoile est apparue avant la naissance de Jésus. Elle ne s'est manifestée à eux qu'à l'instant T, je dirais. Mais elle est née avant. Les mages se sont mis en mouvement avec des trésors, mais lorsqu'ils se sont mis en mouvement avec des trésors, la famille de Jésus ne savait pas qu'ils allaient avoir besoin de cet argent. Joseph d'Arimathée est arrivé au bon moment. Son tombeau est arrivé au bon moment. Ce soir, je veux vous parler brièvement du fait qu'on ne fait pas que célébrer la naissance du Seigneur ce soir. On célèbre un plan. On célèbre le plan de Dieu. Vous savez, souvent, on célèbre Noël comme si c'était un peu une rengaine, l'événement festif, on met le petit Jésus dans la crèche, et c'est sympa, on passe un bon temps en famille. Et on oublie, parfois, de réaliser à quel point ce plan est extraordinaire. Et que non seulement ce plan est extraordinaire pour ce qui s'est passé, mais ce plan continue ce soir. Ce plan continuera demain. Parce que nous sommes inclus dans ce plan. Regardez avec moi dans Éphésiens au chapitre 1. Je veux vraiment vous encourager. Repartons ce soir en étant conscients. Moi, quand j'ai étudié pour vous partager ça, ça m'a vraiment submergé, je dirais. Ça m'a encouragé, mais ça m'a dépassé de dire « Wow, attends. Qu'est-ce que je suis en train de fêter le 24 et le 25 décembre ?» Qu'est-ce que je suis en train de fêter ? Est-ce que je suis simplement en train de fêter les images pieuses auxquelles qu'on a tous en tête avec la crèche, les bergers, l'étoile, etc. ? Non, je suis en train de fêter un événement qui fait partie d'un plan qui continue de se dérouler aujourd'hui sous mes yeux et dont je fais partie, dont mes enfants font partie, dont ma famille fait partie, dont vous faites partie. Et ce plan est tellement extraordinaire, il est cosmique comme je dis souvent, il est incroyable. Qu'il mérite d'être célébré. Éphésiens chapitre 1, si vous lisez du verset 1, on peut dire, jusqu'à tout le chapitre 1 en réalité, mais notamment les versets 3 à 14, ça déroule le plan dont je parle. En 14 versets, ou peut-être même en 11 versets de 3 à 14, vous avez tout le plan de Dieu qui est déroulée sous nos yeux. Brièvement, il nous est dit « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ » au verset 3, « qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ ». Et ça commence au verset 4 par « En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. » C'est-à-dire que, oui, nous célébrons la naissance de Jésus, mais dans le plan de Dieu, toi et moi, et le clochard qui est assis en bas de l'autel, et la prostituée qui est sur la promenade des Anglais, et ton voisin, et les membres de ta famille, et ton patron, et les gens dans les autres pays, tous ont été choisis avant la création du monde pour être saints et sans défaut devant Dieu. Et ça, ça fait partie d'un plan que Dieu a. Jésus est la pierre angulaire, c'est le, comment dirais-je, la clé de voûte de ce plan. Mais Jésus n'est pas le plan à lui tout seul. Nous sommes le plan. Nous faisons partie de ce plan. Nous sommes à la fois des membres de ce plan et l'objectif de ce plan. Pourquoi est-ce que Dieu a fait tout ça? Parce qu'il nous voulait. Il nous voulait avec lui. Ensuite, il nous est dit, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'avant de venir au monde, Dieu avait déjà décidé que tu allais devenir, si tu le souhaites, son enfant adoptif par Jésus-Christ. Quand je vous dis que Dieu prévoit les choses à l'avance, c'est qu'avant même que tu ne sois un commencement d'idée de spermatozoïde de ton ancêtre, Dieu avait déjà décidé de ton existence. Vous savez, je le dis et on le dit souvent, mais peut-être que pour tes parents, tu es un hasard, tu ne l'es pas pour Dieu. Il avait déjà déterminé que tu existerais. Et il avait déjà déterminé que tes erreurs et tes fautes seraient pardonnées en Jésus-Christ parce que ce qu'il veut, c'est que tu sois son enfant adoptif. Ensuite, il est dit, c'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance pour que nous célébrions la gloire de sa grâce dont il nous a comblés dans le bien-aimé. C'est-à-dire que Dieu a... Pourquoi est-ce que Dieu nous a créés? Pour avoir une famille, certes. Parce que Dieu aime donner. Dans Jean, au chapitre 3, verset 16, il est dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Non seulement il a tant aimé le monde, c'est-à-dire que l'amour de Dieu pour le monde, avec tout ce qu'il y a dans le monde aujourd'hui, et qu'il y a eu et qu'il y aura, Dieu a aimé. Il a tellement aimé qu'il a donné. Ici, il nous est dit que le but de Dieu, c'était non seulement de se créer une famille, mais il veut que sa famille célèbre la gloire de sa grâce. C'est-à-dire que non seulement il fait des enfants, mais il fait des enfants pour qu'ils soient tellement heureux d'être bénis par Dieu qu'ils sautent de joie, comme la Bible nous dit, comme des veaux à l'engrais. Vous avez déjà vu des veaux? Vous ouvrez le cheptel et vous voyez les veaux qui partent pour aller manger et ça saute véritablement un veau. Hein. C'est exactement comme ça qu'il veut qu'on soit. Dieu est tellement généreux avec nous. Il veut être tellement généreux avec toi que la seule attitude que tu pourras avoir, toutes tes questions seront balayées, tous tes doutes seront balayés, c'est sauter comme un veau à l'engrais. Ensuite, il nous est dit, et vous le lirez peut-être plus longtemps chez vous, je vous encourage, passez du temps dans les Écritures en période de Noël. Hein, la dinde au marron, c'est formidable. Le foie gras, le saumon fumé, on adore tous ça. Et la crème glacée. Mais la raison de la saison, comme on dit, c'est ce dont on parle ce soir. Et j'apprécie d'ailleurs le fait que vous ayez fait le déplacement. Tout le monde ne l'a pas fait, et on n'est pas là pour juger. En disant, pour moi, il ne peut pas y avoir de Noël sans la parole de Dieu, c'est impossible. En ce qui me concerne, je préfère me passer des fagots de haricots verts. Et avoir la parole de Dieu. Sinon, ça n'a aucun sens. Aucun sens. Ensuite, au verset 7 et suivant, il nous est dit que le sang de Jésus a coulé pour que nous soyons pardonnés de nos péchés. Et la grâce de Dieu a été répandue avec abondance sur nous. Ensuite, il nous est dit que le but de Dieu, c'était de mettre ce plan à exécution, ce projet bienveillant, c'est-à-dire de tout réunir sous l'autorité du Messie, aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. Verset 11, ça continue. Non seulement nous avons été prédestinés, non seulement nous avons été rachetés et pardonnés de nos fautes, non seulement nous sommes sous l'autorité du Messie. Au verset 11, il nous est dit, nous avons été désignés en lui comme héritiers. ayant été prédestinés, à nouveau, suivant le plan de celui qui met tout en œuvre conformément aux décisions de sa volonté. Prédestinés à quoi ? À servir, à célébrer sa gloire, nous qui avons par avance espéré dans le Messie. Donc non seulement Dieu nous a créés, non seulement il nous a prédestinés à être ses enfants, non seulement il nous a pardonnés, non seulement il nous a placés sous l'autorité bienveillante du Messie, mais en plus il nous a prédestinés à être ses enfants. Et ensuite, il nous est dit, au verset 13, « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, comme vous l'entendez ce soir, l'évangile qui vous sauve, en lui vous avez cru et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. Il est le gage de notre héritage en attendant la libération de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. » C'est-à-dire que Dieu nous remplit du Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit fait toute la différence dans notre vie, parce que nous ne sommes plus jamais seuls, parce que nous n'avons plus peur, parce que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force, parce que nous avons les directions et les directives dont nous avons besoin dans la vie, le réconfort dont nous avons besoin dans la vie, l'instruction et l'enseignement dont nous avons besoin dans la vie. Nous avons les avertissements. La Bible nous dit que le Saint-Esprit est celui qui nous annonce les choses à venir, qui nous rappelle les Écritures. Il est celui qui est l'esprit derrière la nourriture. Il est l'eau. Et la parole de Dieu, c'est le pain. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu, sans l'Esprit de Dieu, on pourra lire autant qu'on voudra les Écritures, sans remplir autant qu'on voudra, ça sera mort, ça sera sec, et ça n'amènera à rien. L'Esprit, c'est la vie que Dieu nous a donnée. Et il nous est dit que ça, aussi merveilleux que cela soit, ce n'est qu'un acompte. Ce n'est que le gage de notre héritage. Ce n'est que, comment on pourrait dire ça, quelque chose que Dieu te donne pour te dire « ça, ça te garantit que le gros morceau est encore à venir et que je vais te le donner. » Et il nous a dit, les prémices, oui, il nous a dit « en attendant la libération », c'est-à-dire que même à l'heure où nous quitterons cette terre, nous rentrerons dans la gloire de Dieu. Et ça sera une libération qui sera glorieuse et ensuite il viendra la résurrection, qui est encore plus glorieuse. Voilà en quelques versets tout le plan de Dieu qui a été déroulé devant nos yeux. Et c'est pour ça que je vous dis, ce plan ne peut pas se faire sans Jésus. Pourquoi ? Parce que la Bible nous dit que quand l'homme vient sur terre, il est pur, il est innocent, c'est un enfant. Le problème, c'est qu'il a déjà en germe en lui la séparation d'avec Dieu. Et à la première occasion, cette séparation se manifeste. Jésus est venu pour vivre sur cette terre. Vous savez, on met souvent l'accent sur la mort de Jésus, mais comme je le dis souvent, la mort de Jésus s'est jouée en 24 heures, qui ont été extrêmement denses. Mais avant cela, il y a eu 33 ans de vie entièrement consacrée à vous et à moi. Chaque minute de sa vie était consacrée à vous et à moi. Et pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, je voudrais vous encourager ce soir. Vous savez, on a tous manqué le coche et je sais que beaucoup de gens se disent « moi, je ne mérite pas, oui, tout ça, ça m'intéresse, mais de loin, je m'estime pas digne de ces choses-là. » Mais c'est précisément parce qu'on n'est pas digne de ces choses-là que Jésus est venu. Si nous avions été dignes de ces choses-là, Jésus n'aurait eu aucun besoin de venir sur cette terre. J'ai entendu aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'il a fait, en parlant de Jésus, qu'est-ce qu'il a fait ce pauvre bonhomme pour qu'on lui mette tout ça sur le dos ? Lui, rien. C'est toi et moi qui avons fait. Alors c'est vrai que d'un point de vue humain, ça peut paraître parfaitement injuste. Scandaleux même, disent les Écritures. C'est un scandale. Le scandale de la grâce. Jésus a pris sur son dos tes fautes, mes fautes. Ta condamnation, ma condamnation. Afin que nous, aujourd'hui, nous puissions entrer dans le plan que je viens de vous lire. Et que vous pourrez relire dans Éphésiens chapitre 1. C'est vrai que c'est scandaleux. Mais pour Dieu, ça s'appelle la sagesse, parce que c'était le seul moyen possible. On ne pourra jamais rien faire, vous et moi, pour mériter quoi que ce soit de Dieu. C'est stupide de vouloir penser qu'on peut accomplir quelque chose pour mériter de Dieu. Dieu ne fonctionne pas au mérite. Il n'a jamais fonctionné au mérite avec nous. La seule personne avec laquelle il a fonctionné au mérite, c'est Jésus. Jésus, de par sa perfection, a mérité toutes les bonnes choses de Dieu. Et en prenant sur lui toutes nos imperfections, nous, il nous enlève le châtiment que nous méritions. C'est lui qui l'a pris. Le plan de Dieu est glorieux. Regardez avec moi dans Colossiens pour terminer. Glorieux, glorieux. Il nous est dit, au verset, chapitre 1, verset 15, « Le Fils, en parlant de Jésus, est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. » Je repense à ce chant depuis la semaine dernière, quand il est dit « Marie, savais-tu que quand tu embrasses ton petit garçon, tu embrasses la face de Dieu ?» Ce truc ne me quitte plus depuis la semaine dernière. Tu embrasses la face de Dieu. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre, avant donc qu'il vienne sur terre. Le visible, l'invisible, les trônes, les souverainetés, les dominations, les autorités, tout a été créé par lui et tout a été créé pour lui. C'est-à-dire que Dieu le Père a tout créé par Jésus pour tout réunir sous son autorité, pour tout confier à Jésus, lui donner la souveraineté sur ces choses ensuite. Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. Tout subsiste en lui. Si tu respires sur ta chaise ce soir, c'est parce que Jésus le permet. C'est parce que cette terre, malgré tout ce qui s'y passe, est remplie de la grâce de Dieu. Ça ne devrait pas fonctionner. Il n'y a aucune raison pour que ça fonctionne. Et ça fonctionne. Tout subsiste en lui. Il est la tête du corps qu'est l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. C'est-à-dire que non seulement il a été créé en premier, mais ensuite, dans l'histoire humaine, il est le premier à être né de nouveau. Et ici, il nous a dit « afin d'être en tout le premier ». En effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que c'est lorsque Dieu décide que tout ce que Dieu le Père est réside dans un être humain. Il faut peut-être qu'on revoie notre copie sur comment on considère Jésus lorsqu'il était sur terre. Une belle robe blanche, des sandales, et bien blond aux yeux bleus surtout. Hein, au Moyen-Orient, il y en avait beaucoup à cette époque-là, des blonds aux yeux bleus. Franco Zeffirelli, vous savez. Non, il avait plutôt une bonne tête d'Égyptien, vous voyez. Mais je crois qu'il faut qu'on reconsidère. Vous savez, si les gens qui croisaient son chemin, rien qu'en croisant son chemin, leur vie était transformée, c'est qu'il y avait quelque chose qui se dégageait de lui. Ici, il nous a dit toute la plénitude. La plénitude, c'est quoi? C'est 100% de ce qu'il y a dans Dieu le Père a été mis dans ce bébé qui est né. Pas le 25 décembre. On casse un peu les mythes ce soir. Il n'est pas né le 25 décembre. Mais on le fête le 25 décembre. C'est OK. C'est OK. Il a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui par son sang versé sur la croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis de Dieu, par vos pensées et par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconciliés par la mort de son Fils dans son corps de chair pour vous faire paraître devant lui saints, sans défaut et sans reproche. Le plan de Dieu, mes amis, c'est ce que nous célébrons ce soir. C'est cette chose incroyable qui est que Dieu a décidé de s'injecter, de s'incorporer, de s'incarner dans un être humain, rempli de toute sa plénitude, pour mener à bien un plan qui avait été décidé avant la fondation du monde, et dont vous et moi, non seulement nous sommes les pièces, je dirais, mais dont nous sommes l'objectif. Et les gens avec qui vous allez partager votre dinde ce soir en sont également l'objectif. Alors je veux vous encourager, vous savez, bon, je ne sais pas quelles sont vos familles, il y a peut-être des gens croyants, il y a peut-être des gens qui ne le sont pas, et tout le monde ne partagera pas forcément votre point de vue ni votre attachement à la valeur réelle de l'événement de ce soir. Mais c'est OK. Souvenons-nous que les gens qui nous entourent sont l'objectif de Dieu. Donc, faisons preuve d'amour, faisons preuve de patience. Si l'occasion s'y prête, et elle s'y prête ce soir, parlons de ces choses. Peut-être Si vous êtes invité chez quelqu'un, demandez avant le repas la permission à la personne. Est-ce que tu permets qu'on rende grâce à Dieu pour ce repas ? Si vous êtes chez vous, demandez pas l'autorisation, faites-le. Vous êtes sous votre toit, vous faites ce que vous voulez. Et je ne sais pas si tout le monde ici connaît le Seigneur ou pas. Je ne connais pas forcément tout le monde. Mais Jésus est venu pour nous sauver. Et comme on l'a vu, dans le plan de Dieu, il veut que tout le monde soit sauvé. Dieu nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs et nous avons vu en quelques mots quel est le plan qu'il a pour l'humanité, pour chacun d'entre nous. Vous savez, Dieu ne voit pas l'humanité comme un sac rempli de numéros. Il voit l'humanité comme toi et toi et comme toi et comme toi. Et il veut que chaque personne soit sauvée. Nous savons que tout le monde ne le sera pas. Pourquoi ? Parce que Dieu a des préférés ? Non. Parce que tout le monde n'acceptera pas ce salut. Certains le trouvent tellement scandaleux qu'ils auront même du mal à se l'approprier, à l'accepter. Mais pour ceux qui l'acceptent, la Bible nous dit que le Saint-Esprit vient en nous et change notre vie. Alors je voudrais vous donner l'opportunité ce soir, si vous n'avez jamais reçu Jésus dans votre vie, vous dites « Ouh là là, qu'est-ce que ça veut dire ?» Oh, c'est très simple. Ça veut dire que tu crois que Jésus est venu sur cette terre, qu'il est le Fils de Dieu, qu'il a payé pour tes péchés et que tu n'as plus à payer pour tes péchés. Il est allé en enfer à notre place, il a été ressuscité, justifié, il est assis à la droite de Dieu aujourd'hui, et qu'est-ce qu'il nous donne ? Un cadeau. Le plus grand cadeau que l'on puisse recevoir, c'est le salut. C'est la grâce de Dieu manifestée, précisément parce qu'on ne la mérite pas. Et si tu dis, moi, je ne sais pas si j'ai déjà... Si Dieu vit en moi, si ma vie, je la fais avec Dieu ou pas, alors je vais te donner une opportunité ce soir. Comment ça marche ? C'est très simple. Vous savez, la Bible nous dit, il n'y a pas là non plus à mériter quoi que ce soit. Simplement, on demande à Dieu, viens dans ma vie. Jésus, viens dans mon cœur. J'en ai marre de cette vie, j'ai fait sans toi, j'ai vu ce que ça a donné, maintenant je veux faire avec toi. La Bible nous dit, à partir du moment où tu confesses de ta bouche que Jésus est le Fils de Dieu, et si tu crois dans ton cœur qu'il est ressuscité d'entre les morts pour tes péchés, plutôt mort pour tes péchés, et ressuscité pour te rendre juste, tu es sauvé. Tu n'as rien d'autre à faire, tu n'as rien à mériter. Jésus vient dans ton cœur, et ça c'est un miracle. On l'a lu tout à l'heure, c'est le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen ? Alors je voudrais vous proposer, tout le monde courbe le front s'il vous plaît, quelques instants. Et si vous dites oui, moi c'est une prière que je souhaite faire, je veux que Jésus vienne dans ma vie. Eh bien tout simplement, vous pouvez répéter cette prière après moi, et il le fera instantanément. On peut d'ailleurs tous la répéter, et puis ceux qui ne l'ont jamais faite, eh bien vous vous l'appropriez. Mon Dieu, je viens à toi aujourd'hui parce que j'ai compris que je n'avais rien à mériter. J'ai compris que par amour, tu as donné ton Fils pour qu'il soit puni pour mes péchés, pour qu'il soit enterré et pour qu'il ressuscite afin que moi, je sois juste. Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu. Et ce soir, je veux faire de toi mon Seigneur. Viens dans ma vie. Viens dans mon cœur. Je t'accepte. Père, je suis maintenant ton enfant. Et je déclare que je suis sauvé. Par ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. C'est aussi simple que cela. Si vous n'aviez jamais fait cette prière avant et que vous l'avez faite de votre cœur ce soir, quand vous allez sortir tout à l'heure, je vous engage à le signaler à la personne en disant « C'est la première fois que j'ai reçu le Seigneur dans ma vie et on va vous offrir une Bible. » Ça me semble être un cadeau de circonstance. Et je vous engage à commencer à lire l'évangile de Jean en premier. C'est ce qu'il y a de mieux, c'est ce qu'il y a de plus clair sur l'amour de Dieu qui a été manifesté en Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc souvenons-nous que nous célébrons un plan qui est bien plus grand que le petit Jésus dans la crèche. Amen.